أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم.
والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بالسلام تسلم أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On a l'honneur aujourd'hui d'avoir cher Youssouf Ibrahim, donc imam responsable de la mosquée de Zurich. Donc il a fait déplacement depuis la Suisse jusqu'à ici, alhamdoulilah. Et il aura comme thème aujourd'hui le Conseil européen de la fatwa, rôle et objectif. Conseil qui devrait prendre de plus en plus d'importance, Inch'Allah, par la suite, dans le futur proche. Donc c'est pour ça qu'on a eu l'intention de présenter cette institution au niveau européen, au niveau des musulmans européens, pour se faire connaître et pour que les musulmans commencent à reconnaître en plus cette institution.
Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tout d'abord, je vous salue par le salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parler du Conseil européen de la fatwa, c'est parler d'un passé récent, aussi d'une activité que certains de nos frères, Inch'Allah, guidés Inch'Allah ta'ala par Allah subhanahu wa ta'ala, qui les a Inch'Allah initiés dans ce but de concrétiser une instance afin d'aider les musulmans dans Inch'Allah et le présent et le prochain futur, et surtout Inch'Allah pour ce fameux mot qu'on utilise à bon ou à mauvais escient, c'est une bonne intégration de la communauté musulmane. Parler du Conseil européen de la fatwa et des recherches doit obligatoirement passer par la fatwa en elle-même. Et moi, je m'intéresse beaucoup à la fatwa qu'au Conseil, parce que la fatwa est un fondement de l'islam. Le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est plus ni moins, n'est qu'une fatwa. Et surtout par l'enjeu de la fatwa. Lorsqu'on sait qu'il y a cette parole de l'islam qui dit « La personne qui s'expose le plus à l'enfer, c'est la personne qui s'expose le plus à faire des fatwas. » Ça veut dire que c'est un devoir et une responsabilité. Je pense la crise du monde musulman, ce qui se passe aujourd'hui, dernièrement, depuis quelques semaines, quelques mois, n'est plus ni moins que la conséquence de telle ou telle fatwa. Je pense que l'affaire de Salman Rushdie, elle nous a fait énormément, énormément mal à cause d'une fatwa, qui n'était qu'une fatwa politicienne, d'autres fatwas aussi, dans l'histoire de l'islam. D'autres fatwas dans l'histoire de l'islam, ils ont apporté beaucoup de malheur aux musulmans. C'est pour ça, je vais tout d'abord, dans ma première partie, dans la première partie de cette intervention, je vais parler de la fatwa, des fondements de la fatwa, des conditions de la fatwa, qui est le mufti, et ainsi de suite. Tout d'abord, je commence par le mot ifta, ou fatwa. Quel est le sens de ce mot? Il a deux sens. Le premier, c'est le fait d'éclaircir. Le deuxième sens, c'est le fait de montrer. Et lorsqu'on lit les deux mots, ifta, c'est-à-dire éclaircir, l'obscurité, montrer le chemin. Et à ce moment-là, il faut s'arrêter sur le sens de la fatwa. Le sens qui est qu'il ne faut donner de fatwa que pour ces deux significations. Éclaircir l'obscurité de l'ignorance, et à travers cette lumière de la science, il faut aussi montrer à celui qui vous pose cette question le chemin de l'islam. Je pense un jour, on s'est rencontrés, je pense ici, on a parlé de Al-Sharia. Et lorsqu'on dit aujourd'hui Al-Sharia, pour les musulmans en général, ils pensent Al-Sharia, c'est les statuts de l'islam. Et c'est une erreur. C'est une erreur. Al-Sharia dans le Coran n'est jamais utilisé au sens des statuts, mais il est utilisé au sens de la voie. C'est-à-dire, Al-Sharia, c'est la voie de la vie de l'islam. Donc c'est à ce sens-là que lorsqu'on parle de Al-Sharia, c'est le sens de vivre dans cette voie, dans ce chemin, dans ce sirat al-mustaqim. Parce que réduire Al-Sharia sur des statuts, c'est réduire Al-Sharia sur des fascicules, sur des livres de loi, ni plus ni moins. Mais Al-Sharia, c'est le chemin que Dieu subhanahu wa ta'ala a tracé pour cette communauté. Donc il faut toujours se baser, lorsqu'on parle de la fatwa, ou lorsque quelqu'un arrive vers ceux qui ont cette compétence, et il pose cette question. Il faut constamment se poser cette question, est-ce que cette réponse va l'aider dans le chemin de l'islam? Ou bien elle va l'empêcher à évoluer, à aller de la manière la plus sincère, la plus positive, la plus adéquate vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais vous raconter une petite anecdote pour vous dire que la fatwa, c'est justement ce chemin-là, la fatwa. C'est pour ça, grosso modo, je suis quelqu'un qui est contre ces fatwas en direct, parce qu'il y a ce manque de chemin, c'est-à-dire il n'y a plus de personnalité, il n'y a plus cette relation personnelle entre la personne qui pose et la personne qui répond. C'est devenu quelque chose, comme on dit, le chao fatwa. Et ça, je pense que des fois, ça cause beaucoup de problèmes pour les musulmans. Un jour, une personne est venue vers Ibn Abbas. Il lui a dit, est-ce qu'il y a un pardon pour quelqu'un qui a tué une personne? Est-ce qu'il y a un pardon en cas d'assassinat? Pour mieux cerner la question. Ibn Abbas lui dit, non, il n'y a pas de pardon. C'est l'enfer jusqu'à l'éternité. Et juste quelques instants après, une autre personne est venue, il a posé la même question. Il a dit, est-ce qu'il y a un pardon en cas d'assassinat d'une personne? Elle a dit, et qui est contre le pardon de Dieu? Et qui est contre le pardon de Dieu? Il est toujours là. Et l'assistance n'a rien compris. Bon, en français, c'est un peu difficile de comprendre le sens, mais en arabe, c'était très clair et très facile, surtout pour l'Ibn Abbas. Et il a dit, c'est la lumière de Dieu qui a donné à ce savant. Il dit, le premier, il est venu pour que je l'autorise à le faire. Il a demandé, si je tue quelqu'un, est-ce que j'aurai le pardon? C'est pour ça que je l'ai interdit par ma fatwa. Et l'autre est venu après l'avoir fait. Il a demandé, est-ce que après que j'ai commis cette erreur, est-ce que j'ai le pardon? Et à ce moment-là, À ce moment-là, Ibn Abbas lui a dit, il y a toujours le pardon de Dieu. Pour vous dire, cela, c'est un conseil que je vous donne, qu'il ne faut pas s'aventurer sur la fatwa tant que vous n'avez pas ces deux éléments. Le premier, c'est l'élément qui vous aide à donner cette lumière. Et l'islam est une lumière et on ne peut jamais transmettre cette lumière sans l'évidence. Et l'évidence, il faut l'avoir dans les mains. C'est ad-dalil. Lorsque vous signez, vous savez, le fait de donner, de faire des fatwas, si vous signez au nom de Dieu, Ibn al-Qayyim a écrit ce fameux livre qui est « I'lamu al-muwaqqi'in an rabbil alamin » l'annonce de ceux qui signent au nom de Dieu. Donc « I'lamu al-muwaqqi'in » et il dit « Voilà, je vous donne qui peuvent signer au nom de Dieu. » Et le fait de donner des réponses, il faut avoir cette lumière. Et le Coran, et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et si on vous pose une question, et vous formulez la réponse, elle est juste, mais c'était seulement une réponse par un coup de hasard, vous êtes dans l'erreur. Même si vous avez réussi dans votre réponse, mais le fait d'avoir eu cette aventure de déduction dans la morale islamique, c'est une erreur. Donc il faut avoir le moyen. Deuxièmement, il ne suffit pas seulement de savoir les textes, de maîtriser les textes par cœur. Mais justement, on a besoin de savoir est-ce que cette fatwa aide la personne à garder, à suivre le chemin de l'islam de la meilleure manière. C'est pour ça que vous n'avez qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui dans le monde musulman pour se rendre compte que beaucoup de fatwas sont dites sans ce principe et ils font beaucoup, beaucoup de mal. Comme celle qui qualifie les jeunes palestiniens comme des suicidaires. Le mufti, quelles sont les conditions pour être mufti? Mon but, si je parle de conditions, c'est tout simplement pour essayer de vous dire que la tâche de l'ifta, ce n'est pas une tâche facile. C'est pour ça qu'il faut constamment, même dans les choses les plus simples, même dans les questions les plus simples, il faut constamment avoir de la patience pour comprendre, pour cerner la question, mais surtout essayer de percer quel est le sens de la question de cette personne. Qu'est-ce qu'il veut comme réponse? Est-ce que sa question est guidée? Il veut me guider vers une réponse quelconque ou non? Et je pense les frères qui ont l'habitude de faire des cours en public, surtout en Europe, ils savent de quoi je parle. Des fois, on nous pose des questions et déjà le questionneur, il a la réponse et il veut seulement vous guider dans le sens d'une telle ou telle réponse. Et ça, c'est la mauvaise manière d'avoir le savoir. Donc la première condition, c'est tout simplement la maîtrise totale du domaine de la question qu'on lui pose. Et si on n'a pas la capacité de maîtriser le domaine de la question, à savoir si c'est une question sur le Coran, il faut maîtriser le Coran. Si c'est une question sur la Sunna, il faut maîtriser la Sunna. Si c'est une question, et ainsi de suite. Mais si on n'a pas les moyens au moment de poser la question, il ne faut jamais donner de réponse, mais tout simplement, comme était l'habitude d'imminents savants, c'était « je vais réfléchir, je vais chercher ». À ce moment-là, il se donne un temps pour qu'il aille et qu'il fait cette recherche pour donner la bonne réponse. Aujourd'hui les fatwas en direct, les réponses en direct, il n'y a plus ce temps de réflexion, ce temps de recherche, et on s'aventure à tort et à travers à donner des réponses pourvu qu'on satisfait une assistance ou une chaîne de télévision. Deuxièmement, il faut que la question concerne un événement qui a eu lieu, pas une supposition virtuelle. Et c'est l'école d'Imam Malik qui a fondé ce principe. C'est-à-dire que il ne faut jamais supposer des questions. Il faut que le problème a eu lieu. Et l'histoire de la loi islamique, l'histoire de la bibliothèque islamique est fondée sur deux écoles, deux grandes écoles. La première, c'est l'école de l'opinion qui était à Bagdad. La deuxième école, c'est l'école du texte qui était à Médine. L'école du texte qui était celle de l'imam Malik et ceux qui ont suivi l'imam Malik, à savoir l'imam Shafi'i et Ahmed ibn Hanbal, les trois grands, on peut dire, élèves de l'imam Malik. Et l'école de l'opinion qui était à Bagdad, qui est de Abu Hanifa. Abu Hanifa avait ce principe d'enseignement qui était supposer des questions, supposer des événements. Et ses élèves avaient l'habitude de dire qu'est-ce que tu penses s'il y a eu Ara'aita law anna. Et aujourd'hui, la bibliothèque de l'école Hanafite, c'est la plus grande. Tellement ils ont supposé des événements, ils ont supposé des événements que ces suppositions se comptent aujourd'hui par millions. Et on a la bibliothèque d'Abu Hanifa, c'est immense. Mais lorsque ces élèves venaient à Médine et ils ont voulu formuler la même question à l'imam Malik, il était fou furieux. Il n'a jamais répondu à ces questions. Il a dit, jusqu'à ce que ces questions soient concrètes, jusqu'à ce que ces événements ont eu lieu et posez-nous les questions. À ce moment-là, on a les réponses, on va aller faire l'ijtihad et aller chercher. C'est pour ça qu'un grand savant de l'Andalousie arrive vers l'imam Malik de l'Andalousie, de l'Espagne, à travers le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, puis la presqu'île arabique. Il arrive avec 120 questions chez l'imam Malik et il lui pose la première, deuxième, troisième, quatrième et il n'a que 40 réponses. Il lui dit, je me suis cassé la tête. Il lui a dit comme ça, je me suis cassé la tête pour venir de l'Andalousie avec 120 questions et tu me réponds que sur 40, comment es-toi l'imam Malik? Et à ce moment-là, l'imam Malik lui a dit que celui qui dit, je ne sais pas, Dieu lui donnera le savoir afin qu'il sache. Mais seulement, l'imam Malik savait les questions, savait les réponses, mais il a voulu seulement lui dire qu'au niveau de l'humilité, il ne faut jamais prétendre avoir acquis le savoir total. Et c'est à travers cet événement et d'autres que le calife de l'Andalousie, lorsqu'il a su les qualités de l'imam Malik, il a dit c'est lui l'imam et je vais choisir l'école de l'imam Malik en Andalousie. Et à travers l'Andalousie, que l'école de l'imam Malik s'est installée au Maroc, en Algérie et en Tunisie et une grande partie de la Libye. Troisième question, troisième condition, il faut que les conséquences de cette fatwa n'engendrent pas une déstabilisation de la société. C'est-à-dire la réponse que vous allez formuler, il faut que les conséquences de cette fatwa ne soient pas dévastatrices pour le bienfait de toute la société musulmane. Si c'est le cas, il faut savoir se taire. Et les savants musulmans ont mis l'accent sur beaucoup de questions. Par exemple, le pacte d'allégeance. Est-ce que si quelqu'un a fait ce pacte d'allégeance au calife et il était sous la contrainte, est-ce que l'allégeance est reconnue et valable ou ce calife il doit être destitué? Beaucoup de savants ils n'ont pas donné de réponse sur cette question-là parce qu'ils avaient peur que la réponse engendre une fitna et un grand problème au niveau de la société musulmane. C'est pour ça que je vous le dis aussi. Si telle ou telle réponse aura des conséquences graves, que ce soit au niveau de la communauté, au niveau d'un centre islamique, au niveau d'une association, au niveau de la cellule familiale. Si cette réponse va faire beaucoup plus de mal que de bien, il faut savoir que la règle islamique concernant la transmission du message, concernant la da'wa, si vous êtes confronté devant un mal, vous êtes devant un cas, un sur trois. Soit que vous pouvez changer ce mal par le bien, et à ce moment-là, il faut le faire. Vous devez le changer. Deuxième cas de figure, vous allez changer ce mal par un mal identique. Troisième cas, vous allez changer ce mal par un mal pire. Dans les deux derniers cas, il faut laisser le premier mal. C'est une règle constante jusqu'à la fin des temps. La seule probabilité où il vous est permis de changer le mal, c'est lorsque vous avez le pouvoir de changer le mal par le bien. Et mettez cette règle en pratique chez vous, avec vos frères, avec vos sœurs, avec vos contacts. Et à ce moment-là, vous allez, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, Dieu va vous guider dans le droit chemin. À ce moment-là, il faut toujours dire avant que j'informe mon frère sur telle ou telle question. Est-ce qu'il va accepter cette invitation par la meilleure manière ou bien il va complètement abandonner l'islam? C'est un cas de figure. Et ainsi de suite. Il faut toujours mettre en valeur cette question, toujours en règle. Vous avez trois cas de figure. Soit vous changez le bien par le mal, soit vous avez toujours le même mal, soit vous avez un mal beaucoup plus important que le premier. Quelles sont les compétences pour être mufti? Premièrement, il faut maîtriser le Coran et les sciences du Coran. Au niveau du mufti, aujourd'hui le Coran, c'est à peu près 6000 versets coraniques, mais les versets qui concernent les statuts religieux, c'est à peu près 700, jusqu'à 800 versets coraniques. Les autres ne concernent pas le mufti. Donc il faut impérativement savoir ces versets par cœur et savoir le sens de ces versets coraniques et les avis des écoles islamiques sur ces versets coraniques. Concernant les paroles de la deuxième condition, maîtriser aussi la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans le domaine des sunnah, de la sunna, le champ est beaucoup, beaucoup plus vaste. Troisième condition, il faut aussi maîtriser les fatwas précédentes. Dans l'islam, s'il y a déjà une fatwa concernant le même cas, la même question, il faut tout d'abord savoir quel était l'avis des savants qui étaient avant vous. Parce que c'est un héritage islamique, il ne faut jamais le contredire. Si un comité, par exemple un comité quelconque, a répondu sur une telle ou telle question, il faut préserver la fatwa de ce comité. Chose que nous faisons dans le comité européen, si on nous pose une question concernant un tel ou tel domaine, et nous savons que d'autres comités islamiques de la fatwa ont donné une telle ou telle réponse, on s'aventure plus et on prend la fatwa de ce comité. Quatrièmement, la langue arabe. Non pas parce que c'est une condition sine qua non pour être musulman, je pense que ce n'est pas ça la question, mais tout simplement c'est le seul moyen pour s'approcher des textes, pour s'approcher de l'héritage de l'islam, pour s'approcher de la bibliothèque islamique. Et aujourd'hui, nous tournons, même si vous avez une belle bibliothèque, aujourd'hui nous tournons autour de, on peut dire, de 20 jusqu'à 25% de la bibliothèque islamique, et c'est 75% de la bibliothèque islamique, elle est toujours enfouie en manuscrit partout dans le monde. Ça veut dire que cet héritage de l'islam, jusqu'à maintenant, il n'est pas connu, il n'est pas encore sorti de l'obscurité des bibliothèques. Un exemple, la bibliothèque de l'Escurial à Madrid, jusqu'à maintenant, elle contient 1 million de manuscrits aujourd'hui. Pour vous dire qu'avec la langue arabe, les choses deviennent beaucoup plus faciles pour venir ouvrir cet héritage de l'islam, pour essayer d'être illuminé de la meilleure manière, et surtout certaines écoles, par exemple l'école andalouse, l'école indienne, l'école pakistanaise, l'école africaine, un grand héritage de l'islam jusqu'à maintenant, il n'est pas encore approché. Cinquième condition, les règles et le fondement de la jurisprudence. C'est une science que beaucoup de gens aujourd'hui connaissent et maîtrisent. Les fondements de la jurisprudence islamique, c'est un savoir magnifique, extraordinaire. C'est le moyen pour déduire, pour comprendre, pour rapprocher les textes, pour comprendre les textes, pour faire cet effort juridique. Le seul moyen, c'est savoir le seul moyen pour approcher, c'est justement maîtriser ce savoir. C'est une matière qui est très difficile, mais je pense que pour venir et aussi comprendre les mots du Coran, que veut dire ce mot, quand ce texte est révélé, comment il est révélé, Est-ce que c'est un Coran mécois, c'est un Coran médinois? Est-ce que ce verset coranique peut être ciblé avec un autre et ainsi de suite? Tout ce travail est impossible sans cette matière. Et la sixième condition, c'est une connaissance adéquate de la société où vous vivez, parce que la fatwa, il ne peut être élaborée et ne peut être donnée que si nous connaissons le milieu où cette fatwa va être donnée. Un jour, un grand mufti de Bagdad est venu vers l'imam Malik et lui a dit « Comment tu dis que... » l'imam Malik lui pose cette question, il était très fâché, il a dit « Comment vous osez dire que si la pluie tombe, les musulmans sont autorisés à ne pas venir à la mosquée ?» L'imam Malik dit qu'il faut que cette fatwa est erronée, parce que la pluie n'est pas une excuse. Pluie ou pas pluie, il faut venir à la mosquée. Et ce grand savant, qui est Yahya al-Layfi, répond à l'imam Malik et lui dit « Tu n'as qu'à venir chez nous et constater notre pluie. Si tu constates notre pluie, tu donneras notre réponse. » Et c'est à ce moment-là que l'imam Malik a compris que la fatwa, elle peut changer d'un lieu à un autre. Parce que la pluie qui était au nord, c'est-à-dire au Cham, en Syrie, au Liban, elle n'est pas la pluie de Médine. Lorsqu'il pleut à Médine, c'est tous les 3 ou 4 ans. Pour vous dire, et je pense ici en Europe, c'est l'actualité avant de donner telle ou telle réponse, il faut comprendre l'état des musulmans, l'état où nous sommes, l'état où vous êtes, la difficulté, les enjeux, les problèmes, la minorité, nous sommes une minorité et nous sommes une minorité dans une minorité. C'est-à-dire les musulmans pratiquants déjà commencent à être une minorité par rapport à cette grande majorité des musulmans. Donc il y a un énorme enjeu et je pense que les événements que vous avez connus dernièrement confirment ce que je viens de vous dire. L'historique de la fatwa, comment était la fatwa? Au moment du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hommes ou femmes, il y avait même des enfants qui venaient solliciter le savoir auprès du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et l'accès au prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce savoir était très facile. Il n'y avait pas de secrétaire, il n'y avait pas de rendez-vous. Il était accessible à toute personne. Il est même dit que la femme, dans un autre hadith, et l'esclave, dans un autre, et même la servante, arrive et elle prend la main du prophète et elle va avec lui où elle veut, parce qu'elle voulait avoir le savoir. Donc il était la référence, alayhi salatu wassalam. Toute personne qui voulait ce savoir, il venait directement au prophète, alayhi salatu wassalam. Ils avaient même un moyen, ils achetaient des personnes pour poser des questions. Lorsque les Bédouins arrivent à Médine, vous savez, les Bédouins avaient une exception. Le prophète, sallallahu alayhi wassalam, leur laissait la liberté d'action, liberté de faire des choses que les autres ne faisaient pas. Vous connaissez l'histoire de ce bédouin qui a uriné dans la mosquée de Médine. Et vu qu'ils avaient ce statut plus ou moins libre, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam leur offraient des cadeaux, des fois leur donnaient de l'argent, et disaient « Va vers le prophète et pose-lui les questions que tu veux. » Et l'autre dit « Mais quelles questions ?» Je dis « Pose toutes les questions que tu veux. Je ne sais rien, mais seulement pose des questions. » Et eux, ils arrivaient, ils s'installaient, et ils attendaient que le bédouin arrive, et ils commençaient à poser des questions à tort et à travers, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondait, et il savait déjà que c'était une mise en scène, mais vu qu'on lui pose des questions, il faut qu'il y réponde. Et c'était le moyen d'avoir le savoir, parce que les compagnons de Médine, ils n'osaient pas poser des questions tellement le contact du prophète, ce n'était pas un contact difficile, mais par cet énorme respect qu'ils avaient au prophète, alayhi salatu wassalam, même le fait de le voir devant les yeux, ils n'avaient pas le courage ni la force de le faire. Donc il était la seule référence. Et parmi les erreurs monumentales qu'a eu lieu Médine, c'est le fait de venir demander à un compagnon une fatwa après avoir posé la même question vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, on a failli châtier quelqu'un de cette erreur. Comment tu as osé poser la question à Abu Bakr et tu as posé déjà la même question au prophète alayhi salatu wa sallam. Mais après la mort du prophète alayhi salatu wa sallam, vous savez que les compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam, durant le dernier pèlerinage, ils étaient au nombre de 100 000. Mais tous ces compagnons n'avaient pas le même statut. Ils n'étaient pas tous des savants. Mais je vais vous résumer tous ces compagnons pour vous donner un chiffre. Ceux qui avaient la possibilité de donner des fatwas n'étaient qu'au nombre de 300. Et ce groupe de 300 compagnons, il était déjà divisé en trois parties. Ceux qui faisaient beaucoup de fatwas, ceux qui faisaient les grands, les moyens et les petits muftis. Mais la totalité n'était que 300. Pour vous dire que l'héritage de l'islam au niveau de la fatwa n'était que sur ces 300 personnes. Le premier groupe, les grands muftis de l'islam, ils étaient 13 personnes. Deuxième groupe, ils étaient 34. Et le troisième groupe, c'est le reste. Ces statistiques, je ne vous les donne pas de ma poche. Lisez ce livre, I'lam al-Muwaqqi'in d'Ibn al-Qayyim. C'est lui qui a tracé tout le chemin de ces grands muftis de l'islam. Et ces grands muftis, ces 13, je peux vous dire tout simplement que ces 13 muftis de l'islam, à savoir Aïcha radiallahu anha, Abu Huraira, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr, Omar ibn Khattab, Abu Musa al-Ash'ari et d'autres. D'autres se sont propagés dans la terre de l'islam et les autres aussi, mais ces grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont installés partout dans le monde islamique et des écoles se sont formées non pas à travers les personnalités de ses compagnons seulement, mais aussi à travers leur façon d'interpréter les textes du Coran et de la Sunna, mais surtout selon le lieu où cet islam et cette charia a eu ce contact avec le lieu où il était. C'est pour ça deux écoles, et je viens de vous tracer un peu ces deux grandes écoles de l'islam, qui est l'école de l'opinion et qui est l'école du texte. Si vous posez cette question, mais comment les écoles islamiques étaient installées? Ben, tout simplement de cette manière qui est toute simple, qui est le fait que des compagnons du prophète Hassan se sont installés tout d'abord à Enséré au Liban, une autre partie s'est installée en Égypte, une troisième partie s'est installée en Irak et la quatrième au Yémen. Et à travers ces pôles de l'islam, ces écoles islamiques se sont installées. Mais la manière, le pouvoir politique a réussi à planter ces écoles islamiques à force du pouvoir. Parce que l'imam Malik a été sollicité par Ja'far al-Mansour d'être le mufti de la dynastie abbasside, il a refusé. Il a dit, mais pourquoi vous refusez d'être le mufti de l'État? Il a dit, j'ai eu mon contact avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres savants ont eu le même contact. Le fait d'imposer ma science, c'est exclure la science des autres. Et tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont eu de la même source. Et ça, c'est le vrai chemin de l'islam. C'est cette flexibilité. Il ne faut pas avoir peur que tant que on est dans l'enceinte de l'islam, tant qu'on est dans le champ des écoles islamiques fondées par des preuves, il faut être flexible, il faut être facile. Il faut chercher la facilité parce que c'est le champ de l'islam, mais où il ne faut jamais être facile lorsque, comme c'est le cas aujourd'hui malheureusement, lorsque la facilité est devenue le synonyme de l'abandon du texte. Si vous êtes soutenu par le texte, et ce texte, vous avez un texte qui prêche la facilité, et un autre qui prêche la rigueur, l'islam, il tend toujours vers la facilité. Mais vous avez un texte qui prêche la rigueur et vous avez la facilité non fondée. À ce moment-là, il faut prendre ce texte. Donc, aujourd'hui, on fait cet amalgame entre la fatwa fondée et la fatwa seulement qui n'est que le fruit de l'opinion. C'est comme c'est cette fameuse fatwa que vous avez certainement entendu parler concernant les intérêts bancaires, l'usure. On a dans les mains la fatwa, la vraie, la seule, l'unique, celle qui est fondée par le Coran et la tradition du professeur Salam, et on a l'opinion par ce fameux biais de la facilité. On a eu cette tendance à prendre cette pseudo-facilité, mais en général, ce n'est qu'une déclaration de guerre de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si cette facilité est soutenue par un texte, donc il faut aller vers la facilité. Si cette facilité est dépourvue du texte, à ce moment-là, il faut abandonner la fatwa. Aujourd'hui, est-ce qu'on parle du mufti ou des muftis? Je pense aujourd'hui, c'est le cas, le mufti, une seule personne qui prend cette lourde responsabilité, surtout dans le monde occidental. Aujourd'hui, c'est presque impossible, une tâche difficile, une responsabilité énorme. Vous savez, lorsqu'on vous pose il y a quelques jours, on m'a posé cette question et j'aurais souhaité être absent. Je pense que vous l'avez, on vous la pose constamment, surtout pour les frères, sœurs qui disent, voilà, j'ai 3 enfants. Et le premier 3 ans, le deuxième 2 ans, et le dernier 1 année, et maintenant je suis enceinte. Et il est faible, affaibli et par l'éducation, partout, et il veut faire l'avortement. Est-ce que c'est permis ou non? C'est une lourde responsabilité de dire oui, c'est une lourde responsabilité de dire non. C'est une lourde responsabilité de s'aventurer facilement sans comprendre l'état de cette sœur. Mais des fois, et c'était mon cas, on choisit la protection, la protection de nos âmes, de nos cœurs, de notre foi, tellement on est fragile tout seul. C'est pour ça la solution de la protection, c'est le fait de dire non. Parce que l'état normal, c'est garder un enfant, préserver cette âme, préserver cette vie. Mais pour nous, ce n'est pas cette grossesse qu'on préserve. C'était mon cas hier. Ce n'était pas un enfant qu'on préserve, mais c'était on préserve soi-même. Parce que seul devant telle ou telle fatwa, on est complètement sans armes, on est sans savoir, on est sans fondement, on est tout seul. Et on se demande que si un jour je donne cette fatwa de « oui, c'est permis, il y a telle ou telle école qui a dit qu'il est permis de faire l'avortement durant les 4 mois » et ainsi de suite, parce qu'il y a cette réponse. Mais on a peur le jour du jugement dernier, on se met devant Dieu et ce bébé arrive et avec son avocat du jour du jugement dernier, parce qu'il y a il y aura des avocats le jour du jugement dernier, et il lui dit, Seigneur Dieu, pourquoi il a autorisé à ce que je ne vis pas ma religion, mon islam, ma vie est tout court. Donc, pour vous dire que la fatwa, c'est risqué, c'est une lourde responsabilité. Le fait d'avoir un groupe de frères compétents qui vous aident dans cette action doit donner à la personne, à ce comité, cette force qu'on est dans le droit chemin, qu'on est dans la vérité. Et c'est pour ça, certains de nos frères, et ça a commencé par des frères de France et d'Angleterre, se sont réunis aux années 96 et ils ont vu que les musulmans en Europe ont besoin de tels comités. Parce qu'actuellement, avant 1996, il y avait le comité de la fatwa en Inde, et il avait une certaine tendance salafite, le comité de la conférence islamique à Jeddah, le comité du fiqh, de la jurisprudence à la Mecque. Et ce sont les 3 grands comités de l'islam. Et tous ces 3 comités, je vous le dis, sont d'une très grande compétence. Ils sont représentés par toutes les mouvances, toutes les écoles islamiques. En plus, il y a ces comités nationaux, que ce soit par exemple à Riyad, en Arabie Saoudite, certains pays comme le Maroc, la Tunisie, ils ont de petits comités ou le Mufti, ainsi de suite, mais des comités qui rassemblent des savants de tous les pays musulmans, il n'y a que 3. Mais ces comités, ils répondent à un besoin qui est ciblé sur la communauté musulmane, à savoir au-dessous des 45e parallèle. Mais un comité qui s'occupe seulement des affaires des musulmans en Europe n'existait pas. C'est pour ça ils se sont la première réunion était en Angleterre et on a essayé de concrétiser ce vœu. Le problème était quels sont les critères pour choisir les membres de ce comité. Et je pense sur cette question, il n'y avait pas beaucoup de sagesse, je vous le dis franchement, il n'y avait pas beaucoup de justesse. C'est pour ça, je pense que le comité ne représente pas tous les pays européens. Des fois même, on peut dire qu'il ne représente même pas le pays, certains pays, vu que les membres qui sont venus de ce pays ne représentent qu'une petite partie ou une petite tendance islamique. Mais ce n'est pas ça le grand problème, parce que ce comité il n'est pas fait pour aujourd'hui ou demain. Personnellement, je souhaite, et mon grand vœu, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, que ce comité, il va répondre aux besoins des musulmans dans les années futures, dans les prochaines décennies. Il va certainement avoir un énorme rôle à jouer pour la communauté musulmane. Parce que le jour où vous avez décidé de vivre, Inch'Allah, tant que Dieu vous prête la vie, je pense que nous avons besoin de ce comité et d'autres comités, parce que rien ne nous interdit les musulmans dans d'autres sphères ou d'autres moments à avoir aussi d'autres comités, parce qu'il n'y a aucune interdiction à avoir. Même, je pense, aujourd'hui on est en train de réfléchir dans d'autres pays musulmans, pays européens, à faire un comité de la fatwa sur Lyon. Un comité de la fatwa sur Paris, ainsi de suite. Ça veut dire que il y a des questions qui concernent les musulmans sur leur cité, comme on dit, le travail de proximité, et à défaut de contacter ces comités avec le temps, des fois c'est très difficile, le comité européen, pour avoir la réponse, il faut toujours attendre 6 mois, minimum. 6 mois pour avoir la réponse, parce que nos réunions se font deux fois par année, si on a les moyens, parce que les premières réunions, on a payé le transport, on les a payés de nos poches, les premières réunions. Mais aujourd'hui, je pense que rien n'empêche les musulmans, par exemple, ça je vous conseille de le faire, que s'il y a des personnalités qui sont compétentes sur Lyon, il faut faire ce genre de comité. En Angleterre, il existe déjà, c'est le comité de la charia, et c'est mon frère Souhaib, Mohamed Souhaib, qui est le président de ce comité, et il travaille 8 heures par semaine, par jour. Il ouvre à 9 heures du matin et ses bureaux sont ouverts et les musulmans arrivent et ils posent leurs questions. Ils sont faits pour ça, pour vous dire que l'ampleur des besoins de la communauté musulmane. Et au début, ils avaient la possibilité de répondre quotidiennement au jour le jour. Maintenant, les dossiers qui traînent, c'est à peu près 800 dossiers qui traînent. Tellement que la complexité des besoins de la communauté, mais maintenant 800 dossiers qui traînent et ils sont toujours un mois de retard. Pour vous dire que pour ne pas arriver à ce problème, il faut déjà, je pense, ici sur Lyon, c'est un conseil que je vous donne, déjà penser à cette activité, Inch'Allah. Si vous trouvez les personnalités qui sont compétentes pour cette activité, il faut le faire, je pense, le plus tôt possible, pour essayer justement de ne plus avoir ces fatwas à travers les chaînes satellitaires. Les buts de ce comité. Tout d'abord, premièrement, approcher les avis des savants musulmans vivant en Europe afin qu'ils publient un avis identique devant les questions juridiques qui leur sont posées. On était confronté sur ce grand problème, à savoir que devant la même question, on avait 3, 4, 5, voire beaucoup de réponses, de fatwas. Moi, je me rappelle, aux années 80, je pense que la majorité d'entre vous n'était pas encore née, On avait constamment cette question, est-ce qu'il est permis d'avoir la nationalité française ou non? Et il y avait des gens, il y avait des mouftis qui disaient, le fait d'avoir la nationalité, c'est du kufr. Vous avez perdu votre foi et vous avez perdu votre religion. Et on était déjà à l'époque, aux années 83, oui, on était une minorité. Moi, je me rappelle un jour à Bellegarde, j'ai failli être insulté le jour où j'ai dit, c'est faux, la nationalité c'est dans la poche, la foi c'est dans le cœur. Et l'imam de la mosquée n'a pas apprécié ma réponse. Je dis, le passeport, je l'ai mis dans la poche, mais la foi, elle est dans mon cœur, et il n'a pas apprécié. Mais il faut se mettre déjà aux années 80 pour dire que ce n'était pas facile. Surtout, dix minants savants ont donné cette réponse que le fait d'avoir la nationalité, c'est du kufr, tout court. Donc, afin d'unir les savants musulmans sur une telle ou telle question, était le but à ce que les musulmans, que ce soit partout en Europe, auront la même réponse sur la même question. Deuxième but, c'était répondre aux besoins. Et les besoins de la communauté, vous les savez certainement, ils sont devenus très complexes, très complexés. Aujourd'hui même, Ibn Abbas, s'il arrive à Lyon ou à Paris, il aura de la peine à vous répondre. Tellement nos problèmes sont d'une complexité, le fait que dernièrement à Ivry, j'avais trois questions. Une Marocaine veut épouser un Algérien, les parents le refusent. Une Algérienne veut épouser un Marocain, les parents refusent. Une Tunisienne veut épouser un Africain, les parents refusent. Et les trois couples étaient à la mosquée, ils attendaient la réponse. Pour vous dire que telle ou telle question ne se posait pas aux premiers musulmans. C'est déjà une monstruosité que telle ou telle question se pose, que est-ce que c'est permis d'épouser telle ou telle nationalité. Pour vous dire que ce genre de questions, normalement, s'il y avait une lumière qui circulait dans la communauté, s'il y avait ce savoir, ce genre de problèmes n'auront pas lieu. Et justement pour stopper cet excès, lorsqu'un comité, comme nous disons, un comité local, national, donne et tranche sur ce genre de questions, et il dit franchement, si les parents refusent de marier leur fille qui est sollicité par un jeune musulman de bonne morale, de bonne éducation, le comité se charge pour faire ce mariage. À ce moment-là, les parents vont un peu s'écraser, ils vont réellement accepter de faire ce mariage. Parce qu'aujourd'hui, je donne seulement un peu de schématise, de caricature, mais c'est vrai, c'est un énorme problème, et d'autres problèmes qui se posent. Pour la communauté musulmane, il nous faut une autorité qui impose la vie de l'islam et la personnalité de l'islam. Autrement, si on perd le contact avec cette jeunesse, si on perd le contact avec nos enfants, à ce moment-là, ils vont vivre leur vie, ils vont abandonner et le mufti et aussi les parents. C'est pour ça, pour garder cette communauté, je crois fermement qu'il faut que les musulmans ont cette référence ferme avec tout ce qu'elle doit avoir comme impact spirituel, religieux, a fortiori de l'islam et de ce que l'islam a donné comme respect aux muftis. Moi, je suis confronté devant une autre question qui se pose constamment. C'est très difficile de résoudre ce genre de questions lorsque le mari abandonne. C'est le troisième cas que j'ai essayé de résoudre. C'est très difficile de le résoudre individuellement. Le mari quitte la Suisse. Le mari quitte la Suisse et il abandonne sa famille. Et la loi suisse actuellement, pour faire le divorce, il faut attendre 4 ans. 4 ans minimum. Et la femme est confrontée devant cette question, comment elle va vivre? Est-ce qu'elle doit attendre? Le mari est parti, il l'a abandonné, il a quitté définitivement la Suisse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et des fois, dans la majorité des cas, elle est mariée dans son pays respectif, Maroc, Algérie, ainsi de Turquie, et ne peut plus retourner, soit questions politiques, ainsi de suite. Donc, le fait, on a une femme qui est mariée, mais qui est célibataire. Elle n'a plus de mari, l'a abandonné. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle arrive, vous dit, vous êtes les instances religieuses, trouvez-moi une solution. Trouvez-moi une solution. Et ce sont des cas très difficiles, que à travers ce genre de comité, avec le respect que ce comité doit avoir, je pense qu'il faut qu'il impose telle ou telle solution pour ce genre de cas. Il y a d'autres. Ne me demandez pas comment on résout ces questions, tellement c'est très difficile. Troisièmement, publier des recherches. Publier des recherches et concernant des questions très pointues. Comme c'était le cas sur la première recherche qu'on a fait sortir, c'était sur la viande halal. Elle n'a pas satisfait tout le monde. C'était une étude concernant à peu près 17 pays européens. Et ça a demandé beaucoup d'argent pour faire cette étude. Mais après avoir vu votre AVS, je vais m'interdire de vous donner la réponse de cette étude. Mais parce qu'on dit beaucoup de choses sur cette viande halal, on dit beaucoup de choses sur la viande vendue chez les autres, et des fois on se tait par l'acheter, des fois on se tait par l'acheter, on ne dit pas la réalité des choses. Et cette fatwa, réellement, c'est une très très bonne fatwa, mais après être sorti, le comité s'est désisté, il a abandonné cette fatwa provisoirement, jusqu'à, Inch'Allah, ce que nous aurons le courage de la faire sortir, parce que lorsqu'elle est descendue, cette fatwa, elle a causé tout un tollé auprès des boucheries halal, partout, surtout en Allemagne, et puis on a dit, si c'est le cas, il vaut mieux attendre jusqu'à ce que les musulmans seront prêts pour accepter telle ou telle réponse. Mais c'était une étude très poussée. Deuxième recherche, c'était sur les additifs alimentaires. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes sous les épées de toujours de ces E212, E400 et ainsi de suite. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes concerné? Vous êtes concerné encore? Ouais, que Dieu le pardonne, notre frère. Et après une étude de plusieurs mois, la recherche dit grosso modo qu'il ne faut donner aucun intérêt à ces additifs alimentaires ni aux contraintes imposées par certains, et que à part les produits qui ont gardé leur nature d'origine et qui est cette nature interdite, par exemple la graisse animale ou l'alcool, à part ça, tous ces additifs alimentaires sont halal. Donc, consommation totale. Et ça, depuis longtemps, on avait cette fatwa, mais on n'osait pas dire, tellement nos frères, et surtout nos sœurs, avant de sortir à la, comme on dit, au supermarché, ils avaient toujours le Coran du supermarché, et les pauvres étaient complètement cinglés en train de voir ce produit, est-ce qu'il y avait toujours ces produits additifs ou non. Mais en général, je vous donne la réponse que le comité, et ça c'est juste, c'est vrai, tout simplement pourquoi? Parce que ces produits, ils ont subi tout un changement chimique, soit à travers une forte chaleur, soit à travers une très très baisse moyen de chaud et froid, et ce double moyen a changé complètement la nature de ce produit à un produit tertiaire. C'est pour ça l'interdiction. Nous avons dans l'islam cette règle que si une chose corrompue est transformée par l'eau, par le soleil, par le vent en une autre nature, cette chose devient halal. Quatrièmement, parmi les objectifs de ce comité, c'est inciter une grande maturité auprès des musulmans et de leurs responsables à travers la propagation des valeurs fondamentales de l'islam et par les biais de fatwas justes et équitables. D'ailleurs, toujours parmi les buts de ce comité, c'est justement répondre à certaines questions qui connaissent la société. Des fois, on essaie constamment de trouver quels sont les problèmes qu'affrontent les musulmans. Par exemple, l'argent et l'honneur des non-musulmans. Quel est le comportement des musulmans? Peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous avez ce mal ici en France, mais dans d'autres pays occidentaux, il y avait ces mouvances qui ont osé faire sortir des publications en disant que l'argent des non-musulmans, l'argent des Européens est halal. Par le vol, par l'escroquerie, par tous les moyens, l'honneur des non-musulmans est halal, vous pouvez prendre la femme de qui vous voulez, ce n'est plus du zina. Ils se vantaient devant les mosquées par ce genre de publication, et le comité il a pris en charge toute une fatwa qu'on a distribuée surtout en Angleterre, qui disait que ce qui est halal est halal, que la morale islamique n'est pas divisable pour les musulmans et non musulmans, l'origine de l'argent est haram sauf les permissions. Vous savez, l'argent en général, l'acquisition de l'argent, il faut que vous ayez une preuve fondamentale que cet argent est le vôtre par un moyen que Dieu vous a accordé. Autrement, cet argent, vous n'avez pas le droit de l'avoir. Lorsque vous trouvez un argent par terre, il faut savoir que cet argent n'est pas le vôtre. Lorsque vous mettez la main sur cet argent, ce n'est pas votre argent. Ce n'est pas votre argent. Jusqu'à ce que vous aurez utilisé les moyens islamiques pour l'acquisition de cet argent. Et lorsque vous aurez cet argent, vous avez trouvé un porte-monnaie et vous l'avez emmené dans le bureau des objets trouvés, et après une année, on vous dit c'est le vôtre. Admettons que cet argent est le vôtre. Et vous le consommez. Si le propriétaire arrive après une semaine, vous devez lui remettre son argent. Pour vous dire que la morale islamique n'est pas divisable. La morale auprès de lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, elle est toujours, cette morale est toujours valable jusqu'à la fin des temps. Les fatwas du comité sont toujours au nom de ce comité, mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire des fatwas individuelles au nom du comité. Même si on est membre de ce comité, mais moi par exemple en Suisse, je n'ai pas le droit de signer mes fatwas membre du comité européen, mais je donne ma fatwa au nom de l'imam de la mosquée. Mais on n'a pas le droit d'utiliser l'étiquette du comité tant que le comité ne se réunit pas et il fait des fatwas de groupe et une fatwa collective. Et je pense que c'est une bonne chose. Un jour, un de nos frères ici en France, il a donné une fatwa dans un magazine et il a signé membre du comité européen et c'était un tollé. On a perdu une demi-journée à cause de cette fatwa, à cause de sa signature comme étant membre du comité. Il n'avait pas le droit de faire une fatwa au nom du comité. En son nom personnel, c'est permis. Mais au nom du comité, je pense qu'il faut que le comité se réunisse pour faire des fatwas général et de groupe. En général, les séances se font. On a 6 séances par réunion durant 3 jours. Et des fois, une fatwa peut prendre une journée, comme c'était le cas des intérêts bancaires. C'était toute une journée. Et en fin de compte, on est sorti avec la fatwa que vous connaissez. Dernièrement, on m'a dit que la fatwa concernant la conversion de la femme mariée à un non-musulman, cette fatwa a pris 2 jours. Pour dire qu'on ne prend pas le chemin de la facilité, il y avait des discussions très très longues, très très poussées, tous les membres doivent parler, tous les membres doivent fonder leurs réponses, et des fois seulement les discussions prenaient un temps énorme, des fois on restait éveillé jusqu'à 1h, 2h, 2h du matin, pour dire que ce n'est pas facile de faire sortir de telle ou telle réponse. Si on n'est pas d'accord, et c'est toujours le cas, on n'est pas d'accord, malheureusement, il n'y a que le chemin du vote, et c'est à travers le vote que des fatwas, beaucoup de fatwas ont été élaborées par le vote, vu qu'on n'était pas d'accord. Mais selon les normes des comités, il y a toujours au bas de chaque fatwa, le comité s'est réuni et a décidé par la majorité simple de telle ou telle chose, sauf telle ou telle personne qui était contre. Et toujours, les fatwas étaient signés par la totalité qui était d'accord et ceux aussi qui n'étaient pas d'accord. Je pense que c'est un peu une petite idée. Je n'ai pas voulu entrer dans les détails des déroulements, comment étaient les déroulements de ces fatwas, mais en général, nous recevons les fatwas à peu près 4 à 5 mois avant les réunions. Et chaque membre doit préparer sa réponse écrite. Chaque membre doit préparer sa réponse écrite. Il doit l'envoyer au comité. Et on choisit les meilleures réponses. Et on essaie toujours de mettre les pour et les contre. Et les réponses qui étaient les plus poussées, les membres viennent et ils exposent leur avis devant les membres de ce comité. Presque la majorité des membres sont de l'Europe, sauf quelques personnalités. Et maintenant, on a à peu près 10 personnalités du monde musulman et une vingtaine d'Europe. Je pense que le président, vous le connaissez, c'est Cheikh Al-Qardawi, Inch'Allah, que Dieu lui prête vie. Mais il y a aussi Cheikh Ben Biya, vous le connaissez, je pense, à travers Iqra, ce Mauritanien, ce grand savant mauritanien. Connaissez cette émission? Il répond en français. Vous le connaissez, non? Vous connaissez pas? Non, non. C'est parmi les grands savants de l'école malikite. C'est un ancien ministre des affaires religieuses, Cheikh Ben Biya. Chaque dimanche, je pense à 3h, la chaîne Iqra, il donne les réponses des fatwas en français. Il ne faut pas juger son français, c'est un ancien français, mais il faut saisir le sens de ses fatwas. C'est un grand savant, un éminent savant, Cheikh Ben Biya. Il y a aussi Cheikh Abdullah Ben Menech, c'est une nouvelle recrue. C'est une grande personnalité de l'école Hanbalite, un éminent savant saoudien. Il fait partie du groupe des plus grands savants, le comité des plus grands savants saoudiens. Et déjà, il représente une école Hanbalite. Pour nous, c'est une grande référence. Nous avons aussi le Cheikh Qaradari, qui est parmi les plus grands jurisconsultes de l'Irak. On a aussi le président du comité soudanais de l'installation de l'islam au Soudan, qui est Cheikh Imam Mohamed Imam, c'est un grand savant de l'islam. Et d'autres personnalités, justement pour essayer d'équilibrer les fatwas, afin que la tendance simpliste et de facilité ne l'emporte pas sur le reste. Moi, personnellement, avec un groupe je suis avec le Cheikh Sohaib et Cheikh Maïman, Cheikh Mouaf, Cheikh Maïman et Cheikh Fouad Barazi, on représente le groupe du refus. On est qualifié comme quoi le groupe du refus, c'est lui le groupe qui refuse cette tendance. Mais grâce à Dieu, on est réconforté par la venue de quelques cheikhs qui sont venus d'Arabie et de la Mauritanie. C'est pour ça, je vous le dis franchement, j'ai déposé ma démission il y a 2 ans. Mais lorsque j'ai vu que le comité a changé de tendance, et d'ailleurs ils ont refusé ma démission, après la fatwa du riba, on était contre cette fatwa des intérêts bancaires. Et c'est pour ça, je pense, que j'ai repris ma place dans ce comité. Et je souhaite, Inch'Allah, avec la persévérance et le travail, et surtout, Inch'Allah, ta'ala, avec la reconnaissance des musulmans, parce que c'est notre grand handicap, c'est que jusqu'à maintenant, les musulmans ne reconnaissent pas ce comité. Et la raison est toute simple, c'est qu'on ne peut pas reconnaître ce que nous ignorons. Il faut connaître pour reconnaître. Et jusqu'à maintenant, je pense qu'il nous faut faire cet effort. Mais notre seule excuse, sont les moyens. On n'a pas les moyens. Pas les moyens. Le budget de ce comité, des fois, il tourne autour de 10 000 francs suisses. S'il n'y avait pas cette association Al Maktoum des Émirats qui s'est chargée de l'organisation des réunions et le paiement des transports et de toutes ces réunions, on n'aura jamais pu concrétiser ce, ce comité, je pense que maintenant on est en train de réfléchir sur, sur la façon de, d'avoir une autonomie financière, parce que vous savez, aujourd'hui, l'argent a une odeur. Et pour garder sa parole, pour garder sa personnalité, pour garder cette lumière d'être indépendant, il faut avoir son argent. On nous a proposé un argent, comme on dit un argent entre guillemets sale, mais on n'a pas accepté cet argent parce qu'on n'a pas voulu être la voix de son maître. Et nous préférons se réunir une fois par an que réunir constamment, mais de perdre sa crédibilité auprès des musulmans. C'est pas, est-ce que je vous ai répondu sur cette question du comité européen? Mais Inch'Allah, je souhaite, Inch'Allah, que vous... Je pense que le meilleur moyen de connaître le comité, c'est à travers ce recueil que, Inch'Allah, je remercie énormément les frères. Déjà, pour le publier, c'était les 7 travaux d'Hercule. Je pense qu'il est le 8e. Mais travail, Mashallah, judicieux, Inch'Allah, très joli, très, très bien fait. Je remercie énormément les frères d'avoir fait ce recueil. Et je pense déjà ils peuvent... déjà se préparer pour faire le troisième, parce que déjà le deuxième recueil est déjà prêt, le troisième il est en train d'être élaboré en anglais. Je remercie les frères qui m'ont invité d'avoir aussi venu dans ce lieu que je connais depuis une belle lurette. Je pense qu'il était déjà très très petit, mais très grand par la lumière que Dieu a donnée à ses frères qui ont ouvert par leur sincérité, Inch'Allah, et leur foi et leur action ce lieu. Inch'Allah, il va rester constamment à Tawhid. Il ne faut pas oublier que il était nommé At-Tawhid, non pas pour avoir ce baptême du Tawhid, mais pour rester constamment dans At-Tawhid, parce que c'est notre seul moyen d'être sauvé, c'est préserver. Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Merci de m'avoir prêté attention. Assalamu alaikum.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اجعل لقاءنا هذا لقاء معصوما وتفرقنا منه سالما مأمونا ولا تجعل منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك أن تبارك في جمعنا هذا وأن تجعلنا من المعتقين. اللهم بارك في إخواننا وأخواتنا ونسألك اللهم أن تحفظنا وتحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وبالإسلام عن يميننا وبالإسلام عن شمالنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. اللهم انصر إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. ارحم ضعفنا ولما شعتنا واحفظنا بالإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسأل إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين ويا رب المستضعفين. سألك اللهم أن تغفر لنا خطايانا وتقصيرنا في أمرنا وإسرافنا في أنفسنا ولا تؤخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم احفظ الإسلام في فرنسا وفي كل بلاد أوروبا يا أرحم الراحمين. لا تخرج منهم كافرا ولا فاسقا ولا ظالما ولا معتديا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Pour plus d'informations sur nos productions, visitez notre site www.islam-france.com. Vous pouvez également commander notre catalogue en nous écrivant aux éditions Tawhid, boîte postale 6100, 69392 Lyon, CEDEX 03.